prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi comme des millions de gens aujourd'hui. Seigneur, qui regardent à toi dans différents contextes, différents lieux, différentes situations, avec la joie ou dans la souffrance. Et Seigneur, ce sont tes enfants. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons d'être présent, de parler dans nos cœurs. Et Seigneur, de nous rappeler que tu es un Dieu vivant. Et c'est parce que tu vis que nous sommes en vie. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Je ne sais pas trop par où commencer. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait des années que la notion d'église, le rassemblement des chrétiens, m'interpelle. Vraiment des années. Ça a toujours été pour moi un sujet de réflexion. Et la dernière fois que Norman Mitten est venu en Alsace, ça a relancé cette réflexion lorsqu'il m'a ramené un bouquin qui s'appelle Grassroots Christianity. C'est le christianisme de base, enfin les racines du christianisme. Et en dessous, il y a un sous-titre, l'Église, comme elle a été créée, comme elle, the church as it was created to be, comme, comment on traduit ça, Paul? L'Église telle qu'elle était prévue. Voilà. Donc c'est un homme qui s'appelle Duncan Keller et qui vivait dans le Dorset, en Angleterre, et qui, après 20 ans dans une église classique, évangélique, a décidé d'arrêter pour démarrer des églises de maison. Pas en Angleterre, mais aux Philippines. Voilà. Et donc, il y a eu tout un parcours dans sa vie qui l'a amené à ça. Et Norman Mitten m'a donné ce livre en me disant, lis-le, c'est très enrichissant. Et lui-même avait beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Donc j'ai lu ce livre et ça a déclenché chez moi pas mal de recherches et de réflexions dans la parole et aussi dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, je vais juste vous donner un petit aperçu de ce que j'ai découvert. Et que tout le monde peut découvrir. D'ailleurs, c'est pas une découverte particulière, mais il y a des choses là qui sont intéressantes à noter. Peut-être que ça va un peu choquer certaines de nos conceptions de l'Église, bien qu'à ce gros qu'on soit quand même assez proche de quelque chose de biblique. Mais si vous êtes un peu choqué, venez m'en parler. On trouvera bien une façon de s'entendre. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois les gens vous disent, lorsque vous leur parlez du Seigneur, alors ils s'intéressent un peu à ce que vous faites. Et lorsque vous leur dites, je vais à l'église le dimanche matin, ils vous demandent, c'est quoi alors? Vous faites quoi dans votre église? Alors vous leur dites, viens voir. Alors ils disent, non, je ne veux pas voir, je veux que tu me dises, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous réunissez? Alors vous leur dites, on chante, on prie, on écoute une prédication. Et après ils vous disent, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se réunir le dimanche? Pourquoi depuis plus de 2000 ans, des gens, des croyants chrétiens se rassemblent le dimanche? Et donc, la réponse intuitive rapide qu'on peut faire, c'est pour rendre un culte à Dieu, pour l'adorer, pour le remercier. Et c'est bien de répondre ça. Mais si c'est ça uniquement le but, alors comment expliquer les critiques de l'apôtre Paul à l'égard de certaines assemblées? Chez les Corinthiens, le constat de Paul est dur. Vous vous assemblez pour devenir pire. Et dans l'Épître aux Hébreux, le constat, c'est « Vous êtes devenus lents à comprendre, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes devenus lents à comprendre, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Depuis longtemps, ce n'est pas une église centenaire. Donc, il ne s'agit pas d'une église qui a des siècles, il s'agit d'une église qui a à tout casser 30 ans. Ce sont des chrétiens d'origine juive qui sont réunis là dans l'Épître aux Hébreux. Il y a un autre constat qui est plus actuel et qui questionne le but de l'Assemblée. De plus en plus de croyants aujourd'hui quittent les églises, et notamment les églises issues de la Réforme. Des jeunes surtout, et certains pour rejoindre des lieux où, qui les font plus vibrer, hein, où ça pulse, des endroits où il y a de la scénographie, des endroits où ça fait du bruit, et où hein, c'est intéressant. Et d'autres parce qu'ils se désintéressent de la foi, tout simplement. Et ça, c'était mon cas lorsque j'avais 12-13 ans. J'ai quitté l'église parce que je m'endormais sur la chaise. Mais aussi beaucoup quittent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est fait ou ce qu'on leur propose quand ils se rassemblent. Et donc la question, c'est quel est le but de l'Assemblée? C'est une question que je me pose, je vous ai dit, depuis longtemps. Non pas que j'ai des doutes, mais qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment de la part de l'Assemblée? Et c'est une question que je vous pose à vous. Parce que ça vaut la peine de se poser cette question-là. Il n'y a aucun danger à se la poser. En fait. Aucun. Il n'y a que des avantages. Pourquoi je viens dans l'Assemblée? Pourquoi je m'identifie à cette Assemblée? Il y a beaucoup de réponses. Parce que j'ai toujours fait cela depuis que je suis petit. Je suis dans l'Assemblée. Parce que ça me fait du bien. Parce que ça me rapproche de Dieu. Entendre les prières, les prédications, ça me fait du bien. Alors, on va un peu regarder dans la parole ce que dit la parole au sujet de l'Assemblée. Et on va aussi faire un tout petit peu d'histoire de l'Église. À l'époque de l'apôtre Paul, les chrétiens ne se réunissaient pas dans des bâtiments qui étaient dédiés, comme aujourd'hui, à l'Église ou au rassemblement, mais se réunissaient dans des maisons. Ça, tout le monde le sait. Les rencontres étaient simples, sans organisation rigide, et comme les maisons en général étaient petites, les groupes eux-mêmes étaient petits et réduits en nombre. Et dans une ville, il y avait plusieurs communautés, dans plusieurs maisons. Et donc, ces petites communautés étaient reliées entre elles, les gens se connaissaient, et donc Ça formait une assemblée qui existait sur la ville, mais qui était fractionnée. Les réunions n'étaient pas des cultes, au sens moderne du terme. Les rassemblements mettaient l'accent sur l'édification mutuelle, sur l'encouragement des uns et des autres, la prière, la discussion biblique, spirituel, l'enseignement aussi, et pas du tout sur les rituels liturgiques ou sur des services de culte formalisés. Le but principal des réunions, c'était la croissance spirituelle des personnes et l'entraide. Il y avait beaucoup de gens en difficulté, avec des besoins de toutes sortes d'argent, besoins sociaux. Et donc, il y avait besoin d'aider les gens, parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent, d'autres qui n'en avaient pas. Et on sait, quand on lit les actes, n'est-ce pas, que personne n'était en difficulté parce que ceux qui avaient compensaient pour ceux qui n'avaient pas. Donc, la croissance spirituelle et l'entraide, c'était le but de l'Assemblée. Il ne s'agissait pas de venir assister à un spectacle mené par des ministères professionnels, n'est-ce pas, le chant, la louange, et puis le pasteur, et puis d'autres services. Donc, pas de ministère professionnel, mais un engagement réciproque où chacun pouvait participer et contribuer à construire la foi de l'autre. Il n'y avait pas de leader unique et les décisions se prenaient de façon collective, entre anciens, avec les diacres aussi. À partir du second siècle, les choses commencent à changer. Sous l'influence d'Ignace d'Antioche, qui était un contemporain des apôtres, notamment de Jean, on a commencé à parler pour la première fois de l'Église catholique. Et aussi, on a commencé à parler de la figure de l'évêque comme étant quasi équivalent à une figure divine. Ignace demandait aux chrétiens de rester unis autour de leur évêque pour éviter les divisions et les fausses doctrines. Donc il y avait une bonne raison pour ça. Et par exemple, au chapitre 8 de sa lettre aux chrétiens de Smyrne, il dit « Suivez l'évêque comme Jésus-Christ suit le Père. Que personne ne fasse quelque chose concernant l'Église sans l'évêque. » Donc à partir de là, le système collégial d'origine avec des anciens laisse la place à un mode de fonctionnement qui est dirigé par un évêque ou par un pasteur qui est aussi assisté par des anciens et des diacres. Et donc c'est le début de ce qu'on appelle le système épiscopal. Ça, c'est la naissance du système épiscopal. Donc l'Église catholique, orthodoxe, aujourd'hui fonctionne de cette façon-là. Certains dans l'Église anglicane aussi. Et donc c'est à partir du IVe siècle que le mot « ecclésia », « église », qui au départ signifie « assemblée de personnes », désigne aussi un bâtiment. Hein, c'est à partir du IVe siècle qu'on commence à appeler l'église, qu'on désigne un bâtiment en parlant d'église. Alors qu'en réalité, donc, c'est une communauté. Quel qu'elle soit d'ailleurs le terme, pour nous ce serait une communauté de chrétiens. Donc les premières communautés, on le voit, hein, Paul en parle, couraient le risque de la division, les différences d'interprétation, les conflits internes, les débats sur des sujets religieux. Tout ça, ça menaçait l'unité. Dans 1 Corinthiens 11, on lit: et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit, je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Les divisions faisaient partie de la préoccupation de Paul. Mais il y voyait aussi une occasion pour les croyants de sonder leur propre foi et de se positionner par rapport au message de leur propre assemblée. Donc Paul savait que l'Église était bâtie par Christ et lui mettait sa foi dans le Seigneur parce qu'il savait aussi que on ne peut pas détruire l'édifice spirituel du Seigneur parce que Jésus est la pierre angulaire de cet édifice. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Par contre, les chrétiens qui ont suivi les apôtres, comme Ignace d'Antioche justement, et de nombreux autres, pensaient que c'était leur devoir et leur responsabilité de protéger, de garder, de défendre l'Église contre les hérésies et contre l'éclatement. Surtout dans un contexte où l'Église croissait très rapidement et où il y avait aussi à certaines périodes la persécution. Et donc juste pour finir sur le volet histoire, quelques citations de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Irénée de Lyon au second siècle disait « Nous confondons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit par complaisance envers eux-mêmes, par vaine gloire, par aveuglement et opinion perverse, se rassemblent en assemblée non autorisée, telle donc non autorisée par l'Église fondée et organisée à Rome par les deux apôtres les plus glorieux, Pierre et Paul. » Donc on sent qu'il y a un tour de vis là qui est assez puissant. Cyprien de Carthage au IIIe siècle, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Christ, une seule Église, une seule chair fondée par la voix du Seigneur sur Pierre. Le peuple tout entier doit s'attacher à leur évêque et le clergé aussi. IIIe siècle, ça va vite. Et donc, lui développe la doctrine selon laquelle l'évêque exerce l'autorité du Christ par délégation pour garder l'unité et la vérité. Ambroise de Milan, IVe siècle, le prêtre est pour ainsi dire le vicaire du Christ. Il doit donc gouverner le peuple comme le ferait Dieu. Et Jean Chrysostome, le prêtre tient ici-bas la place de Dieu lui-même. Il commande ici-bas ce que Dieu ordonne là-haut. Donc on voit que l'emprise religieuse a été très rapide. La mise en place... Alors, évidemment, c'est, ne pensez pas que à l'époque, l'Église ressemblait à ce qui se fait aujourd'hui dans une Église catholique ou épiscopale quelconque. Pas du tout. Mais il y a eu... on voit la direction que prennent les choses. Alors revenons à la question du début. Quel est le but de l'Assemblée? En point de départ, je vais citer un passage de Paul dans 1 Corinthiens 14, 26, où il dit « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent? Il y en avait combien aujourd'hui? Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Merci. Ma femme me connaît bien. Donc que deux ou trois parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Et là, rappelez-vous, l'Église, c'est un groupe dans une maison. Okay. C'est même pas comme ici. C'est un groupe dans une maison. et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Qui est concerné ? Tous. C'est facile. Donc j'ai compté 2 plus 1 plus 2 plus 1, ça fait 6. C'est ça ? 2, 3, ouais, 6. Ça fait 6 interventions dans le petit groupe, dans la maison. En sachant que des fois, il y en a un qui doit se taire parce qu'il y en a un autre qui a quelque chose à dire. Et tout le monde juge. Non, mais c'est pas bien de juger. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, Paul ne dit pas « Lorsque vous vous assemblez pour adorer le Seigneur », il dit « Lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous », il dit « Lorsque vous vous assemblez chacun de vous, pardon, attendez, je me perds. Quand vous vous assemblez pour adorer, que tout soit fait pour adorer, il dit « Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a un cantique, un enseignement, une révélation ». Donc il met en avant que le but de l'assemblée, ce n'est pas adorer Dieu, c'est s'édifier les uns les autres. Alors ça coince. Que tout se fasse pour l'édification. Donc l'objectif principal n'est pas le culte à Dieu, mais la construction mutuelle. L'assemblée n'est pas un spectacle où quelques-uns servent le reste qui la plupart du temps est passif. L'assemblée, c'est le lieu où chaque croyant contribue pour participer activement à la croissance du corps. C'est le principe de s'édifier mutuellement l'un sur l'autre. Nous sommes, n'est-ce pas, des pierres vivantes. Une édification, c'est l'un sur l'autre. D'où la nécessité de l'humilité. Vous avez besoin d'humilité pour qu'une pierre se pose sur votre tête. N'est-ce pas? L'édification, la façon de s'élever, c'est le partage horizontal, c'est-à-dire l'édification mutuelle, qui va permettre l'élévation verticale. Le partage horizontal nous rapproche de Dieu. C'est ça la réalité. C'est une tour qui est construite. C'est une anti-tour de Babel en réalité. C'est ce que Dieu avait voulu au départ. Et que les hommes ont traduit en fabriquant eux-mêmes leur construction. Ils ont édifié une tour pour tenter de s'élever aussi haut que Dieu. Mais la réalité, c'est que l'édification se fait lorsque on reste à notre place, l'un avec l'autre. Lorsque nous nous édifions mutuellement, eh bien nous nous élevons et Dieu devient en quelque sorte accessible. En tout cas, Dieu se plaît dans cette construction. Les dons spirituels dont j'ai parlé tout à l'heure, prophétie et aussi les autres choses, les cantiques, l'instruction, la révélation, le parler en langue, l'interprétation, toutes ces choses sont les outils de l'édification. Ils sont les conséquences du feu sur la terre que Jésus est venu jeter. On le lit dans Luc 12, chapitre 12, au verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli ? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division ou l'épée, selon l'évangile. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur ce texte. Mais une interprétation qui est tout à fait valable, c'est que Jésus est venu nous apporter le Saint-Esprit. Lorsque chaque membre dans l'assemblée contribue à l'édification, le Saint-Esprit est libre de se manifester et d'activer ce feu qui mène à la croissance et à la maturité. Dans Hébreux 4, 12, vous lisez « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, c'est deux fois maintenant qu'on retrouve ce terme, n'est-ce pas ? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Peut-être qu'il faut relire ce texte. La parole de Dieu est vivante. Vous savez ce que c'est qu'un être vivant ? Vous êtes vivant. Vous bougez, vous parlez, vous pensez, vous réfléchissez. Vous jugez. La parole de Dieu est d'autant plus vivante que nous sommes vivants. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu est doublement tranchante. La parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu partage entre âme, esprit, jointure et moelle. En quelque sorte, elle désosse. Il s'agit d'un couteau de boucher, là, n'est-ce pas ? Elle désosse. Et le résultat, c'est qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul créateur n'est caché, sentiment ou intention. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. N'est-ce pas ? Ce sont les outils de l'édification. La parole de Dieu. J'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur la notion d'adoration. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise dans Jean, au chapitre 4. Et donc, c'est le passage où on parle de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et on va lire... Donc 4. On va lire à partir du verset 16. Donc c'est Jésus demande de l'eau à boire à la femme samaritaine. Après il dit va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme samaritaine n'est pas, comme on pourrait le penser, une femme adultère, dans le sens strict de la loi. Parce qu'elle a eu 5 maris. Si elle a eu 5 maris, ça veut dire qu'elle a été divorcée 5 fois. Une femme n'avait pas la possibilité de divorcer à l'époque. C'était nécessairement le mari qui devait répudier la femme. Et donc si 5 fois elle s'est retrouvée adultère, c'est que 5 fois elle a été répudiée par le mari. Mais en même temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette histoire, ces 5 maris, représentent les 5 dieux de Samarie. C'est une histoire que vous lisez dans 2 Rois 17, au verset 24. Les Samaritains adoraient 5 dieux, et c'est issu de l'époque où ils avaient été envahis, je crois, par les Assyriens, déportés. Et les Assyriens avaient envoyé des populations dans cette zone pour la peupler. Et évidemment, c'était des païens qui avaient ramené leur propre Dieu, et ils n'adoraient pas l'Éternel. Et donc Dieu a envoyé des lions qui les dévoraient. Et donc ils se sont rendus compte que c'était Dieu qui faisait ça, et ils ont donc modifié leur façon de se comporter vis-à-vis de Dieu, et ils ont inclus Dieu dans l'adoration. Et donc la femme, lorsque Jésus lui parle de ses 5 maris, qui étaient effectivement 5 maris, c'est aussi symboliquement les 5 dieux qui étaient adorés par les Samaritains. Le mari actuel étant le vrai Dieu, mais qui n'était pas véritablement son mari, puisque son cœur était partagé. N'est-ce pas? Le problème des Samaritains, c'était le syncrétisme. Et le syncrétisme fait qu'on n'appartient pas à un seul Dieu, mais à plusieurs. Et donc son mari actuel ne pouvait pas être son vrai mari. Mais en fait, ce n'est pas là-dessus que je voulais m'arrêter, mais sur ce que dit Jésus à partir du verset 23. Avant ça, il dit, vous n'adorerez plus sur cette montagne et vous n'adorerez plus non plus à Jérusalem. plus jamais à Jérusalem. Je sais que ça coince aussi pour certaines personnes. Plus jamais à Jérusalem, m'a dit Jésus. Il n'a pas dit, vous adorerez à nouveau à Jérusalem. Vous n'adorerez plus à Jérusalem. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jésus dit que l'adoration n'est pas un lieu ou un rituel. L'adoration, ce n'est pas le bâtiment et la réunion du dimanche. L'adoration, ce n'est pas un endroit privilégié pour s'arrêter et penser à Dieu. Parce que Jésus, dans cette discussion, il déplace la question du lieu. Jérusalem ou la montagne de Samarie, à la nature de l'adoration. Il exclut l'idée que l'adoration dépend d'un temple, d'une liturgie ou d'une organisation. Et à l'époque, vous savez que pour être pardonné de ses péchés, il fallait monter à Jérusalem. Il fallait acheter le bouc, les pigeons ou quoi que ce soit qu'on voulait faire sacrifier. Il fallait un prêtre. Et c'est seulement lorsque vous recevez la facture de tout ça que vous savez que vous êtes pardonné. Et Jésus dit, ça c'est fini. C'est fini. Il dit, l'adoration, c'est l'état du cœur. Jésus déclare que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors en vérité, on a traduit en église, dans un bâtiment. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. En vérité, ça veut dire sincèrement, de façon sincère. N'est-ce pas? Si on vous demande si c'est la vérité, on vous demande si vous êtes sincère. Eh bien, c'est de ça dont il est question. Adorer Dieu en esprit et en toute sincérité de cœur. L'adoration, c'est la relation intime, personnelle, intérieure, avec Dieu. C'est l'attitude du cœur qui se vit en permanence, jour après jour, minute après minute. Il n'y a pas d'interruption. Ce n'est pas réservé au dimanche matin. En vérité, appuyé sur la révélation de Dieu, sur la parole de Dieu. Un culte sincère, authentique, qui reflète la réalité de notre foi, qui fait que nous sommes des enfants de Dieu du matin au soir et du soir au matin. Que nous soyons au travail, que nous soyons dans le train, que nous soyons dans l'avion, que nous soyons dans la peine ou dans la joie, dans l'adoration devant Dieu. Si l'adoration est une vie vécue au quotidien, alors le rassemblement sera le lieu où cette vie avec Dieu est exprimée collectivement. le culte, j'aime pas tellement utiliser le terme finalement, mais là, le rassemblement, c'est la conséquence de notre édification. C'est pas sa raison d'être. Non, mais je répète parce que je me suis trompé. Le culte à Dieu, c'est la conséquence de notre édification et pas sa raison d'être. Si l'adoration est un état du cœur, ça veut dire que la loi de Dieu est venue se graver dans notre cœur. Ça veut dire que le cœur de Pierre a été évacué et le cœur de chair a été placé au même endroit. Et c'est là que réside le feu de Dieu. Parce que le corps du croyant, l'esprit du croyant, est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, 19. Le croyant est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a plus besoin d'aller à Jérusalem. Il n'y a plus besoin d'aller sur une montagne. Le croyant est véritablement le temple du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Hébreux, donc, l'auteur a fait un constat d'échec, une croissance spirituelle défaillante. Et chez les Corinthiens, au lieu de se bonifier, Paul dit « Vous êtes pire ». Alors bien souvent, on accuse le diable. Et évidemment, lui va se servir de toutes les occasions pour accentuer les troubles. Mais lorsqu'il y a échec dans l'Église, c'est le signe que le feu est en train de s'éteindre et que les croyants perdent le sens et la raison de l'assemblée. Le reproche de Paul aux Thessaloniciens, c'était, ou disons l'avertissement de Paul, n'éteignez pas l'esprit. Retrouvez le but initial de l'assemblée. N'éteignez pas l'esprit. Continuez à solliciter tous les dons spirituels, à s'exhorter mutuellement. Résistez ensemble au péché. Pour certaines personnes, c'est dur, il y a des difficultés graves. Résister ensemble au péché. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aussi nous sommes invités à reconsidérer notre rôle, chacun, dans le groupe. On ne peut pas juste venir pendant des décennies pour s'asseoir, observer, écouter, être nourri comme des bébés, chanter des chants et penser qu'ainsi nous serons édifiés. Ce n'est pas tellement possible, en fait. Et pour conclure, j'aimerais vous raconter une histoire qui va illustrer tout ce que je viens de vous dire. Il y avait un homme qui s'appelait Nicolas. Et un matin, il se lève, il se regarde dans la glace, et ce qu'il voit dans la glace le déprime profondément. Mais je suis devenu gros! Ça parle à certains hommes. Alors il décide qu'il va aller faire de la remise en forme. Et donc, il a entendu parler d'une salle de sport extraordinaire. Vous savez, la salle de sport où les corps se transforment et où la force est bâtie. Et donc, il est convaincu qu'en s'inscrivant là, il va devenir musclé, athlétique. Et donc, le premier jour, il arrive. Qui est-ce qui a fait de la salle de sport déjà ici? Non? Personne. Bon, il est convaincu qu'en s'inscrivant là, il va prendre du muscle et devenir athlétique et tout. Et donc, le premier jour arrive. Et là, il est impressionné avec les machines, tout dernier cri, l'ambiance, l'énergie de tous ces sportifs qui sont là, les athlètes qui s'entraînent avec acharnement. Et donc Nicolas s'assied sur un banc et il observe. Et il se dit, les autres là, ils sont là pour comme moi, quoi. Hein, ils ont juste plus d'expérience, donc je vais regarder ce qu'ils font et je vais essayer de reproduire ce qu'ils font. Et donc, il voit un homme soulever des haltères très lourdes. Et puis, il grogne quand il travaille. Il fait des bruits, quoi. Et Nicolas, donc, il est assis sur son banc. Et il se met à grogner. Il fait des grimaces, des efforts. Et comme si, par la simple pensée, la pensée d'un effort le fatiguait. Alors le jour suivant, toujours installé sur le même banc, il remarque une femme qui s'essuie la sueur de son front avec une serviette. Alors Nicolas, il sort la serviette de son sac et il se l'agite sur le visage pour avoir l'air d'avoir travaillé. Et puis, le jour d'après, il entend un groupe qui compte à haute voix pendant un exercice. Alors, pour se sentir faisant partie, eh bien, il se met à compter avec. 1, 2, 3, sans faire le moindre mouvement. Et puis, il voit une personne qui lève les bras au ciel, exténuée par l'effort. Vous savez, je ne sais pas, Christophe, tu sais comment on fait hein, quand on est après un effort, voilà. Alors, Nicolas, il se lève, il lève les bras, comme s'il venait de terminer un marathon et alors qu'il n'a fait que regarder. Et après quelques semaines de ces allers-retours à la salle, Nicolas est frustré. Il est frustré parce qu'il est toujours aussi peu musclé. Il est toujours aussi gros. Alors il va voir le responsable de la salle et il dit « Ta salle, je ne vais pas le dire en flot. C'est une escroquerie. J'ai payé l'abonnement. Je suis venu tous les jours. J'ai grogné, j'ai transpiré, j'ai compté, j'ai levé les bras. Et je suis toujours pas en forme. C'est quoi le problème ?» Alors l'entraîneur le regarde avec pitié et lui répond « Le problème, monsieur, c'est que pour devenir fort, il ne suffit pas de venir et de s'asseoir. Il ne suffit pas non plus d'imiter les bruits, les gestes de ceux qui travaillent. Cette salle de sport est un endroit qui met à votre disposition les outils et un environnement de travail. Mais le travail en lui-même, l'effort, la répétition, la détermination, c'est à vous de le faire. Les grognements et la sueur ne sont pas la méthode pour devenir fort. Ce sont le résultat du travail. La salle de sport ne fait pas de vous un athlète par la simple présence. De même, l'assemblée ne vous rend pas spirituellement fort par la simple présence, par le mimétisme des gestes et des attitudes. C'est le lieu où les croyants petits, grands, hommes et femmes, faibles et forts, travaillent ensemble à leur salut. Les outils, la Bible, les dons spirituels, la communion fraternelle, l'entraide sont disponibles pour vous permettre d'être édifiés et de participer à l'édification des frères et des sœurs. Quel est le véritable but de l'assemblée? Je vais vous donner une phrase à retenir. Vous allez pouvoir la dire tous les jours. Le véritable but de l'assemblée, c'est de s'édifier les uns les autres. Et s'édifier les uns les autres, c'est le véritable but de l'assemblée. En vivant à titre individuel une vie d'adoration, en esprit et en vérité, nous arriverons à l'assemblée avec une contribution qui édifie l'autre. Et nous manifesterons ainsi le feu de l'Esprit que Jésus a déversé sur la terre. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2:20, dit que l'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes, avec Jésus-Christ lui-même comme pierre angulaire. Jésus a passé 3 ans à vivre et à préparer un petit groupe d'hommes. Il a partagé sa vie avec eux. Il a entretenu une relation vivante avec le Père pour pouvoir jour après jour être prêt à aider et édifier les disciples. Il a partagé sa vie avec eux, les a formés, les a corrigés, les a encouragés. Il a bâti leur foi petit à petit, les préparant à la mission qu'ils allaient accomplir après son départ. La confession de Pierre, à qui Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », la confession de Pierre, c'est « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Eh bien, cette confession que Pierre a fait à Jésus, Jésus a, en réponse, d'une certaine manière, dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, sur ce roc ». C'est un exemple concret, n'est-ce pas, de l'édification. Jésus bâtit son Église. Nous sommes construits sur cet héritage des apôtres. Et cet édifice s'élève sans arrêt à la rencontre de Dieu, ou Dieu à la rencontre de l'édifice, comme vous voulez. Voilà, que le Seigneur puisse transformer notre idée de ce qu'est véritablement l'adoration. Alors, vous êtes bien heureux à Hasbrouck parce que ce dont je viens de parler, vous le faites beaucoup ici. Vous le pratiquez beaucoup. C'est pas partout. Il y a sans doute, comme on dirait, des axes d'amélioration à apporter. Mais je prie que le Seigneur continue à guider dans cette direction et que l'Assemblée puisse véritablement être le lieu d'édification de tout le monde. N'est-ce pas que personne ne puisse venir dire « Vous vous assemblez pour devenir pire ». Que personne ne puisse venir dire dans cette assemblée, il n'y a pas de pardon. Dans cette assemblée, il n'y a pas d'amour. dans cette assemblée. Ah, je ne dis pas que tout doit être parfait sans arrêt, ce n'est pas de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Mais qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Et je sais ce que vous faites. Et je bénis le Seigneur de tout ce qui a été fait pour aider les uns et les autres, tout ce qui est fait aussi dans les rencontres. Voilà. Que nous puissions juste continuer de cette façon. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.